Bonjour à tous, bienvenue dans la nouvelle émission éphémère qui va durer une dizaine de jours, voilà, consacrée aux femmes, parce que c'est la semaine Noël au féminin, vous l'avez bien compris. Donc la thématique de notre série d'émissions, c'est le rock au féminin, et autour de la table, on a plusieurs membres des effets sonores. Salut Christophe.
Salut.
Donc Christophe de la...
Rock Setlist.
Yes, salut. Hey. Salut Véro.
Salut, moi je fais deux petites émissions mensuelles, voilà.
Ouais, et Timo.
Bonjour à tous.
Timo, the first time I met the blues avec moi.
Et meilleur.
Et voilà, salut.
Spécialiste mondial du blues.
Exactement. Bien sûr, ouais.
Que des pointures à Studio Zef.
Voilà, de toute façon, c'est ce qu'il y a de mieux hein, à Studio Zef, on le sait bien.
Et donc, la première émission, on commence avec le début du XXe siècle, les pionnières du blues.
Ah, on se refait pas, hein, meilleur. Voilà, ouais. On va parler blues directement.
Et donc, on commence avec la première, une artiste qui a vraiment, elle, lancé, en fait, les femmes sur le terrain du blues et des enregistrements.
Oui, c'est ça, on se base, donc c'est dans les années 1920, Mamie Smith qui est née à la fin du 19e siècle. Voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est la première femme à avoir été importante dans ce courant-là de musique et aussi avoir enregistré en studio en août 1920. Notamment parce qu'elle a été recommandée par deux compositeurs blancs.
Ouais, donc c'est quand même grâce aux blancs, en fait, que les... parce qu'elle était noire.
Oui, c'était dans le nord des États-Unis. Il y avait déjà des gens qui appréciaient ce style de musique-là, malgré un climat ségrégationniste aux États-Unis. Et donc, elle a été recommandée à un label. Et elle a notamment enregistré la chanson Crazy Blues, qui a été un succès phénoménal. Donc, vente de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires dès les premières semaines. Et le million a vite été dépassé. Bah, je vous propose de l'écouter. Donc, on écoute Crazy Blues, Mamie Smith.
My best friend.
Donc d'autres chanteuses comme elle suivront rapidement ses pas. Nous allons l'écouter au cours de cette émission aux États-Unis. Voilà, Mammy Smith lance avec d'autres chanteuses le mouvement musical dominant des années 20, le classic female blues, où on parle d'âge d'or du blues féminin. Voilà, c'est vraiment...
Ouais. Parce qu'en effet, on pense souvent que c'est les hommes qui sont à l'origine du blues, mais là, en fait, pas du tout, quoi.
De la commercialisation, vraiment... hein, de...
Oui, en effet, ouais, de la commercialisation, quoi. On se dit, ouais, c'est Robert Johnson, Son House, Muddy Waters, mais alors là, en fait, c'était... Ouais,
alors qu'eux, ils sont arrivés la décennie d'après, exactement. Dans les années 30,
ouais,
avant-guerre.
C'est, et... c'est après, ouais.
Ouais, ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment le blues est vraiment féminin, féminin au départ.
Oui, vas-y, surtout qu'on parle de business model, en fait, c'est ça. Mmh. C'est le business model du blues... était avant le business, enfin du blues féminin, je veux dire. Enfin bref.
Et d'entrée de jeu, ces femmes, elles mettent les pieds dans le plat. Ouais. Elles sont assez peu recommandables par rapport au modèle féminin habituel.
Mmh. Elles, ouais, très certainement. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc on imagine dans une Amérique puritaine, anglo-saxonne et ségrégationniste des États-Unis de 1920, ouais, ça devait pas être si évident que ça, effectivement.
Oui. Et puis ouais, aussi dans les paroles, rapidement, en fait, elles commencent à s'affirmer et à dire bon, nous, on n'est pas seulement un objet, on n'est pas que là pour séduire, on n'est pas un objet docile, nous, on est des femmes, on existe et on veut véritablement avoir notre place. Et d'où c'est à partir de ce moment-là que naissent les protestes sont, voilà, où elles revendiquent leur véritable place. Et on peut quand même écouter un autre morceau, en fait, de Mammy Smith.
Ouais, exactement. Ben, on va écouter ce morceau-là, Miss Trailing Daddy Blues.
Et alors, juste un petit détail à propos des paroles. Dans ce morceau-là, elle dit « Papa, maman, a le blues, le genre de blues qu'il est difficile de perdre parce que tu m'as maltraité. » En fait, elle dénonce, voilà, la condition de la femme et que le mari a tendance un peu à...
avoir la main leste.
Exactement, ouais, à avoir la main leste. Et là, donc, c'est un morceau qui était de Mammy Smith, mais moi, en fait, on n'a pas trouvé l'interprétation de Mammy Smith, donc c'est Bessie Smith qui va l'interpréter. On en parlera plus tard, Christophe. Hein.
Ah, bien sûr.
Daddy, mama's got the blues. The kind of blues that's hard to lose. Oh, you mistreated me and drove me from your door. Daddy, you ain't heard the news. There's another papa in your shoes. You ain't even got a chance with me no more. So be on your time I saw you, but
Donc voilà, après Mammy Smith, là interprétée par Bessie Smith, on passe à Ma Rainey. Alors en fait, elle a pris le dessus en fait sur Mammy Smith, elle a un peu mise de côté. Et bon, elle a commencé à chanter dans à l'église, un peu comme toutes ces femmes-là.
Chanteuse de Godspell, en fait.
Ouais, exactement.
Gospel, excusez-moi.
Et en fait, elle comprend qu'avec le blues, il y a vraiment un véritable moyen d'expression pour les Noirs. Et d'ailleurs, elle est, le succès est au rendez-vous et elle n'hésite pas à se faire appeler la Mother of the Blues, alors qu'en fait le blues existe quand même depuis une trentaine d'années. Et c'est le fait de se faire appeler Mother, en fait la mère, ça lui permet quand même d'avoir une certaine influence sur le public, parce que la femme et la mère, elle est quand même respectée en fait.
C'est la figure de la mère, ouais. C'est ça.
Ouais. Je sais pas si je suis assez claire, mais
oui, c'est complètement
la figure de la mère, ouais. De la mamma,
voilà,
l'italienne.
Exactement, ouais. Exactement. Et donc elle s'impose à ce travers-là, à travers cette position-là. Et puis, en fait, une de ses premières chansons féministes, elle s'appelle Barrel House Blues. Donc, Barrel House Blues, c'est là où, en fait, on picole, quoi. Enfin, c'est les lieux
On crée du whisky, non, aussi.
Les lieux de boissons. Et en fait, elle, là, ici, Ma Rainey, elle, avec cette chanson-là, elle cache pas son jeu du tout. Elle dit, bon, bah voilà, moi, j'ai envie un peu de me comporter comme un homme, j'ai envie de boire. Enfin, voilà, elle affiche véritablement sa nature et son mode de vie au quotidien, un peu de débauche.
On va écouter donc Barrel House Blues, un morceau de 1923 interprété par Ma Rainey. D'écouter Barrel House Blues, Ma Rainey. Alors, une petite traduction quand même. Hein. J'ai le blues du Barrel House, là où on buvait. Je me sens terriblement sèche. Je ne peux pas boire de bibine parce que j'ai peur d'en mourir. Papa aime son bourbon. Maman aime son jean. Papa aime les autres femmes. Maman aime les autres hommes.
Ouais, Ma Rainey, en fait, c'est un véritable bonhomme, quoi. Elle voulait pouvoir se comporter comme un homme. Elle a eu des expériences aussi homosexuelles et elle a eu des petits soucis avec la justice aussi.
À cause de ça ?
Entre autres. Et puis bon, je pense que la
police des mœurs ou
drogue, truc comme ça. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre chanson où elle appuie encore cette voix féministe en disant, enfin, le titre de la chanson c'est Trust No Man, enfin, ne faites confiance à aucun homme. Et elle, dans cette chanson, elle traite même les hommes de porcs. Voilà, elle prend position.
Alors, on peut ricocher ensuite ou poursuivre la discussion avec une autre grande dame du blues de l'époque, Bessie Smith.
Une plus connue déjà.
Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, elle n'est pas du tout en famille avec Mamie Smith. Mais un nom très courant à l'époque, hein, ça a continué après avec Will Smith plus tard.
Hein. Ah, c'est la grand-mère de Will Smith. C'est ça, d'accord.
Mais donc, cette Bessie Smith. Par rapport à ce que disait Melior juste avant, c'est étonnant, elle n'a pas passé trop de temps à l'église, bien que son père était un prédicateur, et le pauvre monsieur est mort très rapidement, ce qui a fait qu'elle est rentrée dans une vie un peu chaotique, où il n'y avait pas trop de moyens, elle a eu une jeunesse très rude, ce qui l'a fait devenir une dame à la personnalité plutôt complexe et très tranchée, donc elle était capable d'avoir des habitudes de rue, c'est-à-dire cracher, jurer,
comme Patti Smith.
Plus tard, quand elle a commencé à avoir du succès, elle était capable de donner le change dans la haute société et elle avait un style assez respectable. Et donc, rien que par rapport à ça, déjà, c'était assez étonnant. Et puis, ce qu'on peut retenir d'elle en priorité, c'est qu'elle a fait un carton. Elle a été la femme qui a été la mieux payée, tout sexe confondu.
C'était la star.
L'artiste, voilà.
Et après, c'est pareil. Là, tout à l'heure, on parlait de Maï Rainé. Et c'est Maï Rainé qui lui a mis le pied à l'étrier, qui l'a découvert dans la rue, alors qu'elle chantait avec son frère. Et donc, elle l'a un peu poussé. Et ce qui a fait qu'elle a pu entamer une belle carrière qui s'est construite aussi sur une radicalisation de ses positions où, pareil, elle y va direct contre la position dominante de l'homme et elle veut que la femme puisse avoir sa place entière. Et ça ne l'a pas empêché d'être très volage, ça ne l'a pas empêché d'être très alcoolique.
Ouais.
Et elle a eu donc une super période dans les années 20. Là,
ouais, qui lui ont valu d'ailleurs certains titres, quoi, non, enfin, certains surnoms même. Non, l'impératrice du blues,
voilà,
la reine du blues, ce qui lui a permis d'avoir un écho. Enfin, elle avait quand même, ses paroles avaient un écho certain vu cette célébrité. Quoi.
Et ce plateau de célébrité, ça a duré 4-5 ans. Puis après, d'un seul coup, ça a été un trou. Et puis, bien qu'elle ait essayé de revenir un petit peu plus tard, ça s'est mal fini. Accident de voiture, amputation, et puis elle a décidé de mourir directement. Donc, je vous propose d'écouter un petit titre. Donc, ça a été son tube, qu'elle a vendu à je ne sais pas à combien de millions d'exemplaires, et qui s'appelle Down Earth Blues. Once I was crazy about a man.
Downhearted Blues de Bessie Smith. Voilà, Christophe, tout à l'heure, t'as bien tranché. Elle a eu un accident de bagnole, bim, elle est morte. Avant, la Bessie. Ah, en fait, ouais, et puis avant, enfin, là, voilà, il y a eu un grand succès. Ensuite, elle a essayé de revenir, mais ça a été véritablement un échec. Et qui a pris sa place? Bah, justement, c'est Billie Holiday. Et c'est toi qui vas nous en parler, Véro, une artiste qui venait de New York et qui a débarqué dans le nord des États-Unis.
Exactement. Qui a eu un destin encore assez terrible, encore une. Il y a une longue liste, et pas la liste des 27, mais bon, je ne sais pas combien ils ont été à avoir un parcours assez similaire. Donc, en fait, de son vrai nom, Billie Holiday Eleonora Fagan, qui vient d'Harlem. Alors, effectivement, elle revient de loin, donc elle a une enfance difficile. Voilà, elle tombe dans l'alcool, dans la drogue, etc. Elle se prostitue pour subvenir à ses besoins. Voilà. Et puis, donc, son ancien producteur, John Hammond.
Enfin, l'ancien producteur de
Bessie Smith. Ouais. Pardon. Ouais, l'ancien producteur de Bessie Smith. En fait, l'approche, en 33, et puis il lui propose en fait, des contrats dans ce cliché un peu, j'ai envie de dire, du classique female blues, à cette époque. Et elle devient l'immense star qu'on connaît, qui est restée dans les mémoires, qui restera toujours, je pense. Mmh. Alors c'est vrai que Bessie Smith,
Billie Holiday.
Alors c'est vrai que Billie Holiday n'a pas eu cette figure d'engagement féministe à proprement parler. Mais il y a un morceau qu'on a eu envie de présenter particulièrement marquant. D'ailleurs, on peut trouver la vidéo que je vous invite à regarder sur YouTube, qui est elle aussi très prenante. Un morceau qui s'appelle Strange Fruit. Excusez-moi pour mon accent. Donc, un morceau qu'on a proposé à Billie Holiday, si mes renseignements sont bons, qui est composé par un professeur communiste qui a été absolument...
qui a eu un écho important, engagé quoi, un morceau engagé, non pas pour les femmes, mais plutôt pour les noirs en fait, c'est ça.
Exactement.
La condition des noirs dans le pays.
Et c'est un morceau des États-Unis. Et c'est un morceau qui a fait polémique et qui est revenu sur le devant du terrain au moment de l'investiture de Trump, où personne ne voulait chanter. Il y a eu une artiste, alors je ne sais même pas si elle l'a fait ou pas, mais qui a dit « moi je veux bien, mais si je chante, ça sera ce morceau-là, un point c'est tout ». Vous savez si ça a été joué ou pas ?
Non, je n'étais pas au courant de cette information, mais c'est intéressant. Mais je ne pense pas que Trump ait accepté.
Donc encore aujourd'hui, Billie Holiday a marqué...
Elle est revenue sur le devant de la scène, même jusqu'à l'investiture de Trump.
Ouais, parce qu'il est fait référence aussi au problème de ségrégation violente qu'il y avait dans le sud des États-Unis, en fait. C'est ce que raconte la chanson. Enfin, ça parlait de ça.
Ouais, d'ailleurs, Véro, les paroles, tu peux nous...
Ouais, donc les premières phrases de la chanson. Donc, les arbres du sud portent un fruit étrange. Le sang sur les feuilles et du sang à la racine. Des corps noirs se balancent dans la brise du sud. Des fruits étranges sont suspendus aux peupliers. Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires pour imaginer les scènes de lynchage à cette époque-là.
La grosse période KKK.
Pour ne pas les citer.
On écoute tout de suite Strange Fruit.
1939.
Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rise, for the tree to drop. Here is a strange and bitter
Voilà, Strange Fruit de Billie Holiday. Donc voilà, on a fini avec les pionnières du blues, mais l'émission, cet épisode n'est pas encore terminé. Donc voilà, Mamie Smith, Ma Rainey, Bessie Smith, Billie Holiday auront des femmes marquantes.
Et ce qu'on peut dire, c'est que quand on est pauvre, qu'on a une jeunesse très difficile, et qu'on est alcoolique, et qu'on on peut devenir une star du blues dans les années 20.
Ouais. Ouais. Et mourir...
essayer de mourir dans des mauvaises conditions.
Ouais, mourir dans de mauvaises conditions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont mortes dignement, ça c'est clair. En tout cas, une chose est sûre, elles ont vraiment marqué leur temps et elles auront influencé de nombreuses artistes comme engagées aussi comme Aretha Franklin, Nina Simone, voire Janis Joplin.
Magnifique conclusion, Melior. Alors l'émission, comme tu disais, elle n'est pas tout à fait terminée puisque dans notre projet, on avait historiquement, il y avait Ben qui voulait participer aussi et donc il nous a fait des petites pastilles sonores, des petites chroniques et bah, je vous propose d'écouter la première. Alors avec son petit générique et tout, on a habillé tout ça.
Donc c'est le feuilleton Gloria de Studio Zef et pour cela, il y a Peggy qui va m'accompagner durant tout ce moment. Et donc on va parler des filles, n'est-ce pas Peggy ? Donc Peggy, elle était contente. Hein. Peggy, ben, c'est l'animal de compagnie de ma voisine qui, elle, n'a pas voulu se déplacer. Donc Peggy est super contente d'être avec nous, va se promener dans le studio et puis on va parler des filles. Et puis voilà, et on va commencer avec cette histoire de mauvaises filles. Donc qu'est-ce que c'est que des mauvaises filles ? Eh bien déjà, si tous les mauvais garçons ont eu leur héros, de Gavroche à Joe Starr, en passant par James Dean, eux, les mauvaises filles, se dérobent au regard. L'héroïsation sublime de la déviance masculine concourt à la construction d'une identité virile liée à la violence et à la transgression de l'ordre. Mais qu'est-ce que de mauvaises filles ? On ne trouve que peu de traces dans la littérature, dans les arts et dans la représentation populaire. Les filles de l'imaginaire littéraire sont souvent plus des Cosettes, victimes pathétiques et pures que des rebelles effrontées. Certes, des exceptions sont sublimes. De Manon Lescaut, jeune catin subversive, à Esmeralda, gitane de 16 ans, fascinante et libre, de la Grushenka de Dostoevsky, fille perdue, cultivant la vengeance, à la Miel, jeune figurine stendhalienne, indisciplinée, expérimentatrice sexuelle, le cinéma nous offre la garance de Prévert et Carnet, belle et libre, sous les traits d'Arletty. La Casque d'or de Becker, rayonnante Simone Signoret, la Lolita de Nabokov et Kubrick, troublante Nymphette ou encore la Violette Nozière de Chabrol, visage lisse et opaque de la jeune Isabelle Huppert, incarnant le monstre Nubil. Ce ne sont pas ces belles figures que j'ai voulu chercher dans cette émission, mais les traces des anonymes de l'histoire, autant de jeunes filles qu'il s'agit de sortir des limbes des archives pour tenter en clairs obscurs d'en discerner les traits. Vous êtes toujours là les filles ? Peggy, tu es toujours là ? Donc Peggy est toujours en train de m'accompagner. Et donc Peggy voulait surtout que je parle d'elle et puis de son expérience récente. Et Peggy, avant toute chose, m'a demandé de parler du harcèlement de rue. C'est une histoire qui est arrivée à Peggy il y a quelques temps. Et donc Peggy, elle se rend à son travail. Donc c'est une fin d'après-midi du mois de novembre 2016. Et elle traverse le square Victor Hugo. Alors il est 18h30 à peu près et c'est là que tout va se gâter. Alors là, Peggy, elle est interpellée violemment par deux individus qui l'insultent car Peggy, eh ben, elle est en jupe. Et oui, le harcèlement de rue, ben, c'est que si vous êtes une femme et que vous êtes déjà aventurée dans l'espace public, on peut peut-être être sûr que vous avez déjà expérimenté le harcèlement de rue. Alors cette délicieuse tradition recouvre l'éventail des manières dont de parfaits inconnus font interruption dans votre trajet quotidien. Rien à voir avec la drague, non, non. Séduction et réciprocité étant les cadets de leurs préoccupations. Sifflements, petites accroches sympathiques, Je m'en ferai bien mon 4 heures. Susurré à l'oreille, regard déstabilisant. C'est gratuit, on peut regarder. Note et appréciation. C'est bien de face, mais c'est encore mieux de dos. Invitation à interagir. Bah réponse, salope. Ou à sourire, c'est quand même plus joli quand ça fait pas la gueule. Ils ont de l'imagination, les bougres. But de la manœuvre, bien faire comprendre aux femmes qu'elles sont les intruses dans l'espace public. Et ça fonctionne, puisqu'on ne sait, selon son genre, on ne déambule pas de la même façon dans la ville. De manière générale, une femme ne fait que de la traverser pour se rendre d'un point A à un point B. Tandis qu'un homme a plus tendance à stationner. Bon, si vous avez le moindre doute, demandez-vous si vous êtes à l'aise avec l'idée que quelqu'un s'adresse de cette façon à votre sœur, votre mère, voire votre boulangère, pour qui vous avez un infini respect, ou alors à votre copine. Si la réponse est ben à eux, ça dépend, vous êtes potentiellement en train d'être super lourd.
Gloria, c'est terminé pour aujourd'hui. Retrouvez-nous jusqu'au 12 mars chaque jour sur StudioZef91.1 ou à podcaster sur StudioZef.fr. À très bientôt.